si tu manges à la moindre contrariété, que tu alternes entre restriction et pulsion alimentaire, que tu penses H24 à la nourriture et que tu es obsédé par ton image corporelle, tu es au bon endroit. La nourriture a contrôlé tous mes faits et gestes pendant de nombreuses années. En passant des crises de compulsion à la restriction et à l'obsession de mon corps, j'ai vécu un conflit permanent avec mon alimentation et mon image corporelle pendant bien trop longtemps. Bienvenue dans Liberté Alimentaire, le podcast qui te permet de décoder ton comportement alimentaire et d'apaiser ton alimentation émotionnelle et compulsive. Moi c'est Céline, je suis naturopathe, praticienne en thérapie cognitive et comportementale, ainsi que coach et la créatrice du coaching Naturo. Au quotidien, j'accompagne les femmes à se libérer de la suralimentation émotionnelle et des compulsions alimentaires. Concrètement, je te soutiens dans ton cheminement pour réapprendre à t'écouter et à répondre à tes besoins autrement que par la nourriture. Je travaille d'une manière holistique, c'est-à-dire que je t'accompagne sur toutes les sphères qui influencent ton comportement alimentaire, physiologique, psychique et émotionnel. Grâce à ce podcast, je te partage des conseils et des pratiques concrètes à mettre en place dès aujourd'hui pour te permettre de te libérer des compulsions et enfin faire la paix avec ton corps et ton alimentation. Hello, je suis trop contente de te retrouver pour ce tout premier épisode de la saison 2 du podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est celui de l'image corporelle et surtout du lien qu'il existe entre comment on voit notre corps et notre comportement alimentaire. Du coup, dans cet épisode, je vais te parler de ce que c'est l'image corporelle, comment elle se construit, le lien qu'elle entretient avec notre comportement alimentaire. Et puis surtout, je vais te donner quelques conseils pour adopter une image corporelle plus positive. Alors, qu'est-ce que l'image corporelle ? C'est le rapport à ton corps. C'est toutes les pensées, les émotions et les perceptions que tu peux avoir vis-à-vis de ton corps. Finalement, c'est tout simplement comment tu te vois, comment tu vois ton corps. Ces dernières années, on a beaucoup entendu parler, ou en tout cas de plus en plus, de dysmorphophobie. Qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est une vue un peu déformée du corps. Mais concrètement, c'est caractérisé par une préoccupation qui concerne un ou plusieurs défauts perçus de l'apparence physique, donc de notre apparence physique, mais qui sont pas ou très peu apparents pour d'autres personnes. Et donc en fait, on se rend compte que il y a beaucoup, sans parler du trouble et mettre une étiquette dessus, parce que je suis pas fan de mettre des étiquettes, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes et aussi beaucoup d'hommes, c'est juste qu'ils en parlent moins, mais qui ont ce rapport au corps qui est finalement un petit peu transformé et qui est loin de la réalité, ou en tout cas, ces personnes qui vont avoir tendance à observer un ou plusieurs de ce qu'ils considèrent comme leurs défauts et de le voir beaucoup plus gros que ce qu'il n'est vraiment. Je sais que moi, par exemple, pendant des années et des années et des années, j'ai détesté mes bras et je les voyais vraiment énormes. Objectivement, aujourd'hui, avec du recul, oui, ils étaient plus gros que ce qu'ils sont aujourd'hui, mais je pense que ça n'avait pas lieu d'en faire non plus tout un plat. Mais c'était vraiment la partie de mon corps que je détestais. J'étais en surpoids à l'époque, j'avais plus de ventre, plus de cuisses, enfin voilà. Mais c'était vraiment mes bras qui me gênaient le plus. Je mettais des gilets en hiver, je me mettais jamais en débardeur, je montrais jamais mes bras parce que je les détestais. Et aujourd'hui, malgré le fait que je me sente plutôt bien dans mon corps, je suis pas fan à 100% de mes bras, mais la différence, c'est que je les accepte. Et donc, l'image corporelle, c'est vraiment ça. C'est vraiment comment on se voit, la perception qu'on a de notre corps, et puis un peu le langage qu'on peut avoir aussi intérieur par rapport à celui-là. Mais comment on développe cette image corporelle ? Comme beaucoup de choses, on la développe notamment par la société, par l'éducation, par notre culture. Et en fait, ça fait partie de notre conditionnement. On a grandi dans un environnement, on n'a pas tous grandi dans le même environnement. Et en tant qu'enfant, on apprend beaucoup quand on est petit. Et donc, on absorbe aussi énormément de choses. On dit que les enfants, c'est un peu des éponges émotionnelles, mais les enfants, c'est finalement des éponges à tout. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se développe, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on devient adulte, notamment en observant ce qui se passe autour de nous, notre environnement, comment les gens parlent, comment les gens agissent, comment les gens s'adressent à eux-mêmes et aux autres. Et donc, pour l'image corporelle, finalement, c'est pas bien différent. On apprend à regarder notre corps, à voir notre corps, et on développe ce rapport à notre corps par rapport à comment les gens qui sont autour de nous, quel rapport ils ont finalement à leur propre corps, mais aussi comment on va nous regarder et ce qu'on va nous dire sur notre corps. Et donc finalement, c'est très rare qu'on apprenne à développer et à construire une image corporelle par rapport à soi et à des facteurs qui sont finalement internes et qu'on le développe vraiment d'une manière où on se pose des questions, on se dit bah ok, comment moi je me vois, qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Mais plutôt, on va vraiment prendre les croyances d'autres personnes, ce qu'on va dire sur nous, sur l'observation qu'on fait finalement de ces personnes par rapport à leur propre corps. Et donc, il est vraiment très rare qu'on construise cette relation à notre corps et cette image corporelle d'une manière très objective par rapport à nous et notre propre regard. On vit dans une société où l'image corporelle est omniprésente. On parle de corps partout, on met le corps en avant partout, que ce soit dans les magazines, dans les films, dans tout ce qu'on va pouvoir lire. C'est présent dans notre culture H24 et c'est vraiment quelque chose sur lequel, en tant que société, on va se reposer et à laquelle on va accorder une grande valeur. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'on grandit avec une idée très fermée et très stricte de comment doit être le corps, notamment de la femme, mais aussi de l'homme. C'est juste qu'on en parle un petit peu moins et que l'image corporelle et le body positivisme de la femme commencent à se développer. Pour l'instant, l'homme un petit peu moins. Mais la réalité, c'est que on a des préjugés, des clichés et des modèles du corps de la femme et de l'homme qui sont très stricts, même s'ils commencent à bouger aujourd'hui. Mais pendant des années, et si vous avez à peu près le même âge que moi, si vous êtes né dans les années 90, moi, quand j'étais plus jeune, la femme devait être très mince, ne pas avoir beaucoup de forme, être vraiment rentrée dans ce moule-là. Et aujourd'hui, ça a beaucoup changé, ça a évolué, mais le problème de fond, il reste le même. C'est-à-dire que aujourd'hui, on accepte davantage les femmes avec des formes, mais là où je trouve que c'est un peu absurde, c'est que c'est juste des formes là où on veut. C'est-à-dire des femmes avec une poitrine, des femmes avec des hanches, des femmes avec des fesses, mais attention, pas de bras, pas de ventre, pas trop de cuisses, etc., etc. Et je trouve que c'est un peu là aussi un gros problème de la société, c'est que on va avoir tendance à dire oui, ça se développe, ça va mieux avec les Kardashians, les formes, etc. Mais en fait, la problématique de fond reste vraiment la même parce que la vision qu'on a, c'est que la femme, et là je vais beaucoup parler de la femme parce que c'est ce qui moi me concerne et c'est les personnes que j'accompagne, on va vouloir les faire rentrer dans un moule. Peu importe le moule va changer, le moule va évoluer. Mais quoi qu'il arrive, en fonction des périodes, on va vouloir que la femme rentre dans ce moule-là. Et ça, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? C'est parce qu'on n'est pas tous et toutes faites pour avoir le même corps. Je le vois très bien en ayant étudié la naturopathie. En naturopathie, on utilise beaucoup la constitution. Et la constitution, c'est lié à justement comment est fait le corps. Et ça nous permet de déterminer certaines choses chez certaines personnes. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on est tous censés avoir des corps différents. Et finalement, la différence, la variation, c'est la norme. Je vais juste le répéter. La différence, c'est la norme. Et si aujourd'hui, ça, c'est une citation, un statement qu'on accepte très très bien dans tout ce qui va être caractère et personnalité, on l'accepte pas aussi bien au niveau corporel. Mais la réalité, elle est la même. Au niveau génétique, au niveau biologique, on n'est tout simplement pas tous faits pour être fichus de la même façon et pour avoir le même corps. Et donc en fait, vouloir que la femme ou l'homme rentre dans des moules et que tout le monde soit fichu pareil, ça pose problème parce que c'est quelque chose qui est inatteignable ou en tout cas qui ne l'est pas dans des conditions où les personnes vont se sentir libres et où elles ne vont pas avoir à en souffrir. Et en fait, ça, ce que ça crée, c'est que ça crée énormément de mal-être parce que bah, les femmes, bien évidemment, ce qu'on cherche en tant qu'être humain, de toute façon, c'est l'acceptation et c'est l'appartenance. C'est deux besoins qui sont hyper importants pour l'être humain, pour se sentir heureux et pour se sentir bien. Et donc, dans cette recherche d'appartenance et d'acceptation, bah, on va vouloir automatiquement et naturellement rentrer dans ce moule-là, quitte à dépasser ses limites et à créer vraiment un mal-être. Mais c'est naturel, c'est humain. Et ça veut dire que ce n'est pas la faute des femmes qui essayent de rentrer dans le moule parce qu'elles veulent juste répondre à des besoins qui sont primordiaux et qui sont essentiels, qui sont ces besoins d'appartenance et d'acceptation. Mais c'est le problème de toute la société qui crée ce moule finalement et qui demande un petit peu aux femmes de rentrer dans ce moule et qui va rejeter les femmes qui ne sont pas dans le moule. Parce que bien évidemment, qui a envie d'être rejeté ? Personne. On veut tous, c'est vraiment des besoins basiques de l'être humain, on a tous ce besoin d'être accepté, d'être comprise et de vraiment fit dans la société et c'est tout à fait normal. Et donc, pour atteindre ces besoins, pour répondre à ces besoins-là, qui finalement sont des questions de survie quand on y pense, parce que le rejet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire solitude, et la solitude, c'est la mort pour l'être humain. Bah en fait, on va s'imposer des choses qui ne sont pas naturelles et qui défient un peu les lois de la physique finalement. Parce que quand on y pense, quand on essaye de faire tel ou tel poids, de faire telle ou telle taille, etc., alors que notre morphologie n'est pas faite pour, on va défier les lois de la physique. Et donc, ça va être très compliqué et ça va créer des déséquilibres et ça va créer des mal-être à la fois physiologiques, mais aussi psychiques. Et du coup, ça, qu'est-ce que ça fait ? C'est quoi les conséquences finalement de ça ? Bah, c'est qu'en tant que femme, on va avoir tendance à penser qu'on n'est jamais assez bien ou jamais assez belle. Parce que la réalité, c'est que c'est des standards qui sont impossibles à atteindre ou en tout cas à maintenir. Quand on défie les lois de la physique, et ben en fait, on ne peut pas maintenir ça sur le long terme. C'est impossible. Et quand on voit aujourd'hui le moule et ce à quoi on veut que les femmes ressemblent et l'idéal, entre guillemets, que les femmes vont essayer d'atteindre parce que c'est ce qu'on leur met dans la figure, c'est quasiment impossible. On le voit bien, si on prend l'exemple des sœurs et des femmes Kardashian, bah, elles n'ont pas fait ça naturellement, ok ? Donc, être plutôt fine, avoir un ventre plat, avoir des bras fins, un visage fin, mais avoir beaucoup de poitrine, beaucoup de hanches et des fesses bien bombées, naturellement, c'est assez compliqué. Et donc, c'est vraiment, on se met dans des états pas possibles pour atteindre et maintenir ces idéaux, mais qui sont inatteignables et qui sont finalement plutôt surréalistes. Au même titre, à l'époque où moi, j'étais adolescente et qu'il y avait cet idéal de la femme très très mince, voire maigre, puisque quand je regarde des photos aujourd'hui, des images de femmes avec lesquelles on a grandi, et attention, je juge pas ces femmes-là parce que au même titre, elles essayaient juste de rentrer dans un moule et d'être acceptées. Mais quand je vois les images des chanteuses, des actrices, etc., avec lesquelles on a grandi, pour certaines, elles étaient à la limite de l'anorexie. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a un réel problème ici. C'est que on défie toutes les lois de la physique, et surtout, on met une pression sur notre corps et sur notre organisme, mais qui peut en arriver à être maladif. Et un autre gros problème de ça que moi je vois, c'est que, et ça c'est la société, ça vaut pour les femmes, mais ça vaut au global, mais c'est vrai qu'il y a plus de pression sur les femmes par rapport à ça, c'est qu'on associe finalement la valeur de la femme sur son corps et sur l'esthétique. Et j'ai vraiment eu une prise de conscience ce week-end, et si tu me suis sur les réseaux, tu l'as sûrement vu, mais c'est incroyable à quel point beaucoup de personnes, hommes comme femmes, et malheureusement les femmes on le fait beaucoup aussi, mais à quel point on va associer la valeur de la femme à son corps et à ce à quoi elles ressemblent. Et donc ça, ce que ça fait, c'est que on va complètement se dévaloriser et limite en oublier notre personnalité, notre caractère et ce qui fait qu'on est ce qu'on est et qui va définir un petit peu nos valeurs, parce que de toute façon, on ne met cette pression que sur l'esthétique et que sur notre corps physique. Et on peut en arriver, même dans les cas les plus extrêmes, à perdre notre identité. Parce que finalement, on met tellement l'accent sur à quoi on ressemble, sur ce que les gens vont penser de nous, sur qu'est-ce que ça veut dire si je fais pas une taille 36, qu'est-ce que ça veut dire si j'ai du ventre, qu'est-ce que ça veut dire si j'ai pas de poitrine, mais que bah j'ai des bras qui sont un peu larges, etc., etc., qu'on perd notre identité qui est liée à notre personnalité et à notre caractère. Et donc ça, pour moi, ça, c'est vraiment un gros problème parce que on n'est pas... Notre valeur ne dépend pas de notre corps. En tout cas, elle ne devrait pas. Et le fait de construire et d'apprendre depuis le plus jeune âge à construire notre valeur et notre identité sur notre aspect physique, mais en fait, on ne va jamais s'en sortir. Et en plus, c'est voué à l'échec parce que, bien évidemment, plus on vieillit et plus l'aspect physique va être amené à changer et même quand on est âgé, à se détériorer. Mais détériorer par rapport à quoi ? Par rapport à nos concepts finalement et ce à quoi on s'attend. Parce que finalement, est-ce que quand on vieillit, on se détériore vraiment ? Juste, on évolue. Et si on enlevait la partie de jugement derrière ça, mais en fait, on trouverait ça complètement normal d'évoluer. Quand on évolue sur l'aspect cognitif et sur l'aspect développement personnel de notre personnalité, de notre caractère, l'aspect émotionnel, on apprend, on change, on évolue, on voit ça comme quelque chose d'ultra positif. Par contre, par rapport à notre corps, on le voit comme positif que quand on tend vers cet idéal et vers ce moule dans lequel on veut nous faire rentrer. Par contre, dès qu'on dévie un petit peu de la normalité, entre guillemets, bah là on voit que c'est vu d'une manière hyper négative. Et donc, pour moi, la manière dont on construit cette image corporelle est vraiment problématique. Et c'est de la responsabilité de nous en tant qu'adultes d'apprendre à nos enfants ou à nos futurs enfants et aux futures générations de changer justement cette façon de voir son corps et de mettre l'accent sur des choses différentes. Et finalement, pourquoi pas de mettre l'accent plus bas sur la personnalité et sur ce qu'il y a à l'intérieur que sur ce qu'il y a à l'extérieur. Et attention, ici, je ne fais pas l'apologie d'être en mauvaise santé, de manger du fast-food H24, etc. Parce que déjà, ce n'est pas forcément lié au poids. Il y a des gens qui sont en surpoids et ce n'est pas lié à ce qu'ils mangent. Il y en a qui vont être beaucoup plus minces, voire maigres, mais pour qui l'alimentation va être complètement malsaine. Donc, encore une fois, là, je ne parle pas du tout, je ne lis pas ça à ce qu'on mange, au fait d'être en bonne santé, au fait d'être en mauvaise santé, etc. Parce que ça, c'est lié à beaucoup plus de choses qu'au poids. Mais là, je parle vraiment juste de l'image corporelle et de l'aspect physique et des idéaux qu'on peut mettre en avant. Et donc, c'est vraiment à nous et c'est notre responsabilité en tant qu'adultes d'apprendre et de véhiculer aux générations futures une image corporelle qui soit différente, qui se base sur d'autres choses, et de les accompagner dans le développement d'une image corporelle beaucoup plus positive et puis aussi beaucoup plus flexible et beaucoup plus indulgente. Mais du coup, peut-être que là, tu te demandes, c'est quoi le lien entre l'image corporelle, les pensées, les croyances, les émotions, les perceptions qu'on a sur notre corps ? Et le comportement alimentaire, et donc potentiellement l'alimentation émotionnelle et les compulsions. En fait, c'est plutôt simple finalement, c'est plutôt intuitif quand on y pense. C'est que quand on essaye d'avoir une apparence corporelle spécifique, comment on va faire pour la contrôler ? Moi, je vois deux possibilités ici. Et la première, généralement, c'est contrôler son alimentation. C'est malheureux, mais c'est un des moyens les plus j'allais dire facile, mais je ne sais pas vraiment si c'est le bon mot. Mais en tout cas, c'est le moyen auquel on va avoir recours le plus rapidement et le plus instinctivement pour contrôler son corps et ce à quoi il ressemble. Et c'est bien triste parce que plutôt que d'accepter qu'on a tous des corps différents et que c'est ok, et encore une fois que la différence c'est la norme, bah on va essayer par tous les moyens possibles et imaginables de contrôler son alimentation pour atteindre cet idéal corporel que l'on souhaite. Et donc ça, à quoi ça ressemble? Bah ça va souvent ressembler à des régimes restrictifs. Et donc c'est comme ça que beaucoup de femmes et de jeunes femmes commencent très très jeunes les régimes restrictifs avec une restriction calorique énorme pour souvent vouloir perdre du poids et avoir bah, ce ventre plat, ces cuisses toutes fines, qui se touchent pas, etc., etc. Alors que d'ailleurs, laisse-moi te dire que tu peux être fine et avoir les cuisses qui te touchent. Mais c'est pour vraiment prendre un petit peu les clichés de la société. Et donc, bah voilà, le moyen le plus simple, c'est qu'on va contrôler son alimentation, on va commencer les régimes restrictifs hyper tôt et on rentre dans un cercle vicieux puisque de toute façon, on n'a jamais assez. Et les conséquences de ça, elles sont potentiellement graves et elles sont potentiellement très dangereuses. Parce que déjà, on épuise le corps. À avoir si peu de calories, parce que la réalité c'est ça, c'est que être en déficit calorique, quand on le fait de manière intelligente, de manière accompagnée et pas drastique, c'est ok quand on le fait pour des raisons de santé, etc., etc. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on veut perdre du poids très rapidement parce qu'on veut atteindre cet idéal corporel très rapidement. Donc, on réduit les apports caloriques hyper rapidement. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on épuise le corps puisque la nourriture, en premier lieu, aujourd'hui, on l'utilise beaucoup comme façon de, effectivement, contrôler son image corporelle et de contrôler son poids. Mais de base, la nourriture, ça sert à quoi? Ça sert à apporter de l'énergie au corps. Ça sert à faire que l'organisme puisse remplir toutes ses fonctions correctement et te garder en vie. Et donc, quand on lui enlève son carburant, c'est-à-dire les calories et donc l'énergie, bah en fait, il s'épuise. Il s'épuise au niveau physique, c'est-à-dire qu'on va vraiment être fatigué physiquement, mais il s'épuise aussi au niveau physiologique parce que tous les nutriments que tu vas apporter à ton corps, quand ils sont en quantité trop faible, il va les utiliser pour maintenir finalement ton énergie basique, pour te maintenir en vie et pour remplir les fonctions vitales de ton organisme, la respiration, le fait que ton corps il fonctionne bien, que ton cœur bat bien. Comme je te disais, que tu respires, que ton sang il circule, que si, que ça, que tu restes éveillé. Et toutes les autres fonctions finalement qui sont nécessaires mais qui sont moins vitales dans ta survie, bah en fait, ton organisme, il n'aura pas d'énergie pour faire ça puisqu'il n'y a pas assez de calories. Il n'y a pas assez d'aliments, donc pas assez de nutriments, donc pas assez de carburant et d'énergie. Et donc, toutes les fonctions de mental, psychologique, émotionnel, etc., bah, elles ne sont pas vitales pour ton corps. Lui, il veut juste te garder en vie. Et donc, ce qui fait que tu vas être fatigué physiologiquement et psychologiquement. Et c'est là qu'on commence aussi à se sentir déprimé, à se sentir irritable, à se sentir irrité, à ruminer, etc. Parce que tout ça, ça se régule avec ton système nerveux, ça se régule avec les nutriments, du coup, que tu consommes. Et en fait, quand on n'a pas suffisamment, bah, tout ça, ça se régule pas. Et donc, t'es épuisé physiquement et psychologiquement et émotionnellement. Ça, c'est une première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que bah, finalement, on prend le risque de créer des troubles du comportement alimentaire. Parce que le corps, il meurt de faim. La réalité, c'est que quand on fait des régimes restrictifs, le corps, il meurt de faim, littéralement. Et donc, on crée, finalement, on déclenche ce cercle vicieux de restriction et de compulsion, parce qu'il y a un moment donné où le corps, il n'en peut plus. Il dit, mais en fait, moi, je peux plus, je ne tiens plus. Et donc, dès qu'il a l'occasion d'aller manger, il va aller manger en grosse quantité, d'où les compulsions, parce qu'en fait, le corps, il est hyper intelligent. Il cherche toujours à trouver son équilibre, et en plus, il se souvient, et il se souvient très bien. Il a une très bonne mémoire. Et donc, quand il va être face à la possibilité d'aller manger et de manger en grosse quantité, il va le faire, parce que le restant de l'année, il hiberne, il mange rien. Parce qu'on réduit ses calories de manière beaucoup trop importante. Et donc du coup, quand il a la possibilité d'aller manger, de manger en grosse quantité, mais il va le faire parce qu'il a peur d'être privé de nouveau. Et donc, moi là, je t'invite vraiment à t'arrêter 5 minutes, 2 minutes, 3 secondes, et à voir la magie et le côté positif dans tout ça. C'est que ton corps, il fait tout pour t'aider. Il fait tout pour te maintenir en vie, faire en sorte que tu puisses faire tout ce dont tu as besoin de faire. Ton corps, il est toujours en train de t'aider. Il cherche toujours cet équilibre et il fait toujours tout pour toi et pas contre toi. Et donc ouais, quand il manque d'énergie, quand tu le prives, quand il n'a pas assez de carburant, bah tu prends le risque de créer des troubles du comportement alimentaire parce qu'en fait, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix pour aller chercher son énergie de créer ces compulsions-là. Et donc, on rentre dans ce cercle vicieux de restriction et de compulsion. Et le troisième gros risque derrière ça, et il y en a sûrement plein d'autres, mais je veux pas que l'épisode il dure une heure déjà, qu'il dure beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu, c'est qu'on se sent de plus en plus mal. Parce que l'idéal, il est jamais atteint. On en veut toujours plus, et c'est le propre de l'être humain, c'est qu'on en veut toujours plus. Et donc, ce qui fait, c'est qu'on se sent de plus en plus mal. Et donc, en plus, on va manger pour compenser le fait qu'on se sent mal. On va manger pour se réguler. On va manger pour combler ce vide. Parce que cette perfection, on ne pourra jamais l'atteindre. Et donc, c'est un cercle vicieux en boucle qui ne s'arrête pas. Qui s'arrête que quand tu décides de l'arrêter et de faire le travail sur ton image corporelle et d'arrêter la restriction alimentaire. On passe donc à l'aspect plus pratico-pratique parce que j'ai vraiment à cœur dans ce podcast de t'apporter des conseils et des pratiques que tu vas pouvoir implémenter tout de suite en sortant du podcast. Et donc du coup, ce que j'ai envie de t'apporter là, c'est vraiment des choses que tu vas pouvoir retirer de cet épisode et de t'aider finalement à adopter une image corporelle plus positive. Pour améliorer ta relation avec ton alimentation, tu l'auras compris, il est primordial que tu améliores ta relation avec ton corps. Et ce que tu dois changer finalement, c'est pas ton corps, c'est pas l'aspect de ton corps, c'est ta manière de le percevoir et la valeur que tu y attaches. Et ici, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie que tu gardes en tête. C'est que l'idée, c'est pas de te forcer à penser et à te dire que tu aimes toutes les parties de ton corps ou te répéter sans arrêt que tu es la plus belle si tu n'y crois pas. L'idée ici, c'est l'acceptation corporelle et c'est la flexibilité aussi. Ça veut dire que les affirmations positives, moi j'adore, mais ça a ses limites. Et à un moment donné, vouloir te faire croire à tout prix quelque chose auquel tu crois pas, ça va pas forcément t'aider. Ça va simplement faire grandir la culpabilité si finalement tu n'y crois toujours pas. Par contre, ce que je te propose ici, c'est l'acceptation corporelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux apprendre à t'accepter et à respecter ton corps, même si aujourd'hui, il ne ressemble pas exactement à ce que tu voudrais. Et donc, je veux vraiment que tu gardes ça en tête pendant que tu fais tous tes exercices. C'est que l'idée, c'est pas de te dire « Ok, à partir d'aujourd'hui, j'aime mon corps comme il est, c'est comme ça, je me pose plus de questions et voilà. » C'est d'accepter, de justement l'accepter et de le respecter, même s'il n'est pas exactement comme tu aurais aimé qu'il soit. La première chose que je t'invite à faire pour justement améliorer ta relation avec ton corps, la plus révélateur, c'est de remettre en question tes croyances sur ce qu'est la beauté. Parce que comme je te le disais au début de cet épisode, beaucoup de nos croyances, et notamment celles sur la beauté et sur ce à quoi devrait ressembler le corps et le corps de la femme, c'est beaucoup des choses qu'on nous a transmises finalement. Et donc, c'est pas hyper objectif, c'est-à-dire que ça ne vient pas de nous et ce sont pas forcément nos croyances, mais plutôt celles de la société, celles de nos parents, celles, je sais pas, des gens autour desquels on a grandi. Et donc là, je t'invite vraiment à remettre en question tes croyances sur ce que c'est la beauté et te poser cette question. Mais finalement, qu'est-ce que c'est la beauté? Ça peut paraître très philosophique, mais ça aide vraiment. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est la beauté? Où est-ce que ça se trouve, la beauté, finalement? Est-ce que tu as envie de la mettre uniquement sur ton apparence physique? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent te permettre de te sentir belle? Est-ce que finalement, les idéaux aujourd'hui de la société, c'est ça pour toi, être belle, être jolie? Où est-ce que tu trouves cette beauté finalement? Et où est-ce que tu peux la trouver ailleurs que dans ton apparence physique? Et remets vraiment en question ces croyances-là, parce qu'il est fort possible qu'elles ne t'appartiennent pas. Et une des premières choses que tu peux faire pour améliorer ton image corporelle et développer une image corporelle plus positive, c'est de faire attention au contenu que tu consommes. Que ce soit à la télévision, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit les magazines ou les sites internet que tu consultes, souvent, on va avoir tendance à se comparer. Et pendant que tu es en train de faire, peut-être qu'un jour, tu pourras regarder tout ça sans te comparer et ça ne créera aucune émotion désagréable. Mais pendant que tu es sur ce cheminement, je t'invite vraiment à faire attention et à monitorer les contenus que tu consommes parce que souvent, ça ne fait que nourrir cet idéal qu'on se construit sur le corps, cet idéal auquel on veut répondre, qu'on a envie pour nous-mêmes, qu'on a du mal à atteindre et qui du coup, en parallèle, bah, nous fait développer une relation conflictuelle avec nous-mêmes et avec notre alimentation. La deuxième chose que je t'invite à faire ici, c'est de challenger tes pensées automatiques sur ton corps. On a souvent des pensées qui nous viennent hyper rapidement, sans vraiment y réfléchir, et qui vont nous faire ressentir des émotions hyper désagréables. Par exemple, j'ai trop grossi, ou si je maigris pas, je serai jamais acceptée, ou j'ai aucune valeur, je suis pas assez belle, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Si je perds pas 5 kilos, je vais jamais sentir bien dans mon corps. Si je ne fais pas une taille 36, je ne pourrai jamais porter tel pantalon, etc., etc. Ou je ne pourrai jamais mettre de jupe, jamais mettre de robe. Et donc vraiment, je t'invite à challenger ces pensées automatiques et déjà à en prendre conscience et puis à te demander, mais qu'est-ce que j'essaie d'obtenir? Qu'est-ce que j'essaie de faire avec ça? Et quand tu as des pensées comme ça, moi, ce que je propose à mes clientes souvent, c'est de se dire, un, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les pensées que tu as, elles sont vraies? Donc déjà, remets ça en question. Et ensuite, même si aujourd'hui tu considères qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles te sont utiles? À partir du moment où tu as répondu non à une de ces deux questions, souvent ce sera la deuxième, bah challenge ces pensées et laisse-les de côté, puisqu'elles ne te sont pas utiles et donc finalement, à part générer des émotions plus que désagréables, elles ne vont pas t'apporter beaucoup. Et puis, tu peux te poser la question de mais pourquoi j'ai ces pensées? Qu'est-ce que j'essaie réellement d'obtenir? Derrière ce besoin de contrôler mon aspect physique, qu'est-ce que j'essaie de satisfaire comme besoin? Et là, je te rappelle que tu peux apprendre à respecter ton corps, même si aujourd'hui, dans les conditions actuelles, il ne te plaît pas. Et puis, tu vas voir que c'est un cheminement, que bien évidemment, ça ne va pas être confortable, mais c'est OK d'accepter aussi de ne pas être confortable. On vit dans un monde et dans une période où on déteste l'inconfort. Mais l'inconfort fait partie de la vie et c'est ok de l'accepter. Et donc, accepte que ce soit pas hyper confortable ce cheminement, parfois, mais que c'est ce qui va t'aider à renouer avec ton corps et puis à améliorer ta relation avec ton alimentation. Et puis, la dernière chose que je vais t'inviter à faire ici, c'est à cultiver la gratitude avec ton corps, c'est-à-dire d'être reconnaissant pour ton corps et de le remercier pour tout ce qu'il fait pour toi au quotidien. Parce que si tu y penses bien, on met beaucoup de pression sur l'aspect physique, sur à quoi il ressemble, mais on oublie, pour la plupart d'entre nous, d'être reconnaissante pour tout ce qu'il nous apporte, de tout ce qu'il fait pour nous au quotidien. Tous les matins, on se réveille, on marche, on court, on respire, on sent. On a tous nos sens qui sont incroyables et qui nous apportent énormément de choses au quotidien, qui nous permettent d'avoir des émotions diverses et variées. Et ça, on oublie bien trop souvent de le prendre en compte. Et donc de te reconnecter à ça, et de reconnecter à ce que tout ton corps, il t'apporte, au-delà de l'aspect physique, mais plus au niveau fonctionnel finalement, toutes les fonctions qu'il remplit, ça va t'aider à mettre de la distance justement sur cette valeur que tu peux porter à l'aspect purement physique et matériel. Et mettre beaucoup plus de valeur sur l'aspect fonctionnel de ton corps. Et donc, reconnecte-toi à tout ça. Reconnecte-toi à tous tes sens et apprécie tout ça. Quels sons tu aimes? Quelle musique t'aimes écouter? Quels endroits t'as pu visiter grâce à tes jambes, grâce à tes yeux, au fait de pouvoir bouger? Toutes les personnes que tu aimes grâce à ton corps, à ton âme, les textures que tu adores toucher grâce à tes mains, toutes les personnes que tu as pu prendre dans tes bras grâce à justement bah, ton corps, tout simplement. Et juste prendre ça, prends une grande inspiration, une grande expiration, et puis être reconnaissante pour tout ça et te reconnecter à tout ça. Et accepter ton corps comme il est aujourd'hui et juste le remercier. J'espère que cet épisode t'aura plu et que tu repars avec des éléments pour avancer dans ton cheminement. Je t'invite à noter ce podcast grâce aux petites étoiles pour m'encourager dans la création de ces épisodes dans lesquels je mets beaucoup d'amour et d'énergie. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Liberté alimentaire.